Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Mathieu Plane, il est directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Il a publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Gaël Slimane, le président d'Odoxa, à l'occasion donc de la publication de notre baromètre mensuel avec Abeille Assurance, Challenge et BFM Business. On a regardé, on poursuit notre analyse de l'inflation telle qu'elle est vécue et telle qu'elle est exprimée dans les questions posées. Et notamment, quelle attitude face à l'inflation en termes d'épargne, en termes de recours aux prêts.
Et en termes de conso. Alors, là aussi, c'est quelque chose qu'on suit dans le temps depuis le début de la crise. L'ensemble des dépenses, on en a testé une demi-douzaine, des grandes catégories de dépenses. Les Français nous disent qu'ils ont qu'ils font attention à essayer de réduire le montant de leurs dépenses dans chacun de ces postes parce qu'il y a cette inflation. Donc, c'est le cas sur les dépenses de chauffage. On a un tiers des Français qui nous dit avoir beaucoup réduit ses dépenses dans ce domaine. Et on est à 79% quand on prend l'ensemble de ceux qui nous disent avoir fait un geste dans ce domaine. Les dépenses de loisirs, 44% nous disent les avoir beaucoup réduites. Celles de biens de consommation courants comme les vêtements, on est à 41%. Les déplacements en voiture, 35%. Les produits domestiques, 24%. Et les achats de produits alimentaires, 21%. Alors, c'est pas la baisse de consommation dans ce domaine.
Dans le micro.
Il s'agit bien de la part de Français qui nous dit le faire. Ça signifie, quand on agrège tout ça, que les trois quarts des Français nous disent regardez maintenant à leurs dépenses dans chacun de ces postes. Et parfois, on est à peu près à un tiers d'entre eux qui y regardent de très près, qui y regardent beaucoup. Et on est en augmentation de 6 points depuis le mois dernier. Donc de façon récurrente, à mesure que les chocs inflationnistes pèsent sur les ménages, ils nous disent faire de plus en plus attention à leurs dépenses. Et quand on retrouve l'indicateur de la consommation que vous donniez il y a un instant, Nicolas, effectivement, on n'est pas très étonné avec ces résultats.
C'est le plus fort recul depuis le confinement d'avril 2021, le chiffre de conso en volume sur les biens. Là.
Et du coup, Mathieu Plane le rappelait tout à l'heure, sur l'épargne aussi, ça a des conséquences, même si la particularité des Français, quand on fait des baromètres internationaux, c'est assez amusant. Les Français nous disent oulala, ça va mal, donc j'épargne. Et puis quand ça va bien, quand la situation économique est bonne, ils disent la situation économique est bonne.
Ça pourrait changer.
Donc je mets de côté, j'en profite. Ce qui fait qu'effectivement, on a des niveaux d'épargne qui sont très élevés. Mais on commence à avoir des gens qui nous disent avec ce qui m'arrive, avec cette hausse de l'inflation, j'ai déjà puisé dans mon épargne. On est à un tiers des Français qui nous dit avoir déjà dû puiser dans son épargne pour faire face à cette hausse de l'inflation. Et là aussi, alors plus ceux qui nous disent qu'ils envisagent de le faire, on arrive à des niveaux élevés et on est en progression constante depuis ces derniers mois. On est à plus 7 points depuis le mois dernier, plus 9 points depuis juin dernier. Donc y compris dans ce domaine-là, parce que l'épargne est tirée par un quart des foyers les plus aisés, en gros, on a aussi un choc sur nos concitoyens.
Et les chiffres se confirment en tout cas par rapport à ce qu'on avait vu le mois dernier. Un mot avant de parler du mode d'emploi pour faire face au risque de pénurie d'électricité pendant l'hiver. Je voudrais avoir votre avis sur le SMIC. Il y a le groupe d'experts sur le SMIC qui est toujours présidé par Gilles Berset, que vous connaissez bien. Et il a rendu hier son avis. Alors vraiment zéro surprise, il déconseille, Christian Saint-Etienne, au gouvernement d'accorder un coup de pouce au SMIC, au-delà de la hausse normale et mécanique du SMIC, qui dépend d'une méthode de calcul, notamment fondée sur l'inflation qui touche les foyers, les 20% des foyers les plus modestes en France. Il a raison, on a l'impression qu'il se répète inexorablement.
Ben oui, il a raison pour deux raisons. La première, c'est que le SMIC a été remonté avec l'inflation.
Et il augmente
une indexation complète sur l'inflation, qui plus est avec une augmentation de la moitié de la hausse du salaire moyen. Donc les salariés au SMIC, qui doivent être 17 à 18% des salariés en France, sont totalement protégés. C'est probablement, dans les comparaisons internationales, la catégorie de salariés la mieux protégée dans les pays développés. Ça peut sembler paradoxal, il faut quand même donner les bonnes nouvelles. Donc les salariés au SMIC sont très protégés. Ça a néanmoins des conséquences secondaires qu'on connaît très bien depuis 30 ou 40 ans, c'est que les salaires qui sont juste au-dessus se font manger par la hausse du SMIC, et donc il y a un écrasement de l'échelle salariale qui n'est pas bonne pour la motivation des salariés.
J'ai un auditeur qui m'avait écrit que son épouse désormais était au SMIC, parce qu'elle, elle n'avait pas été revalorisée, elle était au-dessus, puis le SMIC ayant remonté, elle s'est retrouvée, et c'est vrai que c'est dur à vivre, oui. De se dire, ah ben je redeviens SMICard, même si en fait fondamentalement la fiche de paye n'a pas été évidemment abaissée.
Les employeurs d'ailleurs doivent être très attentifs à ça, parce que l'effet démotivation peut être important, même s'ils ne donnent pas une augmentation comparable à celle du SMIC aux gens qui sont au-dessus, ils doivent être très vigilants sur l'effet de rattrapage que vous venez de mentionner.
Après, le problème que l'on a par rapport au SMIC, c'est que pendant plein d'années, on a augmenté le SMIC de manière automatique et puis effectivement, quelquefois, accordé des coups de pouce. Et pour éviter les effets négatifs sur l'emploi, on a baissé les cotisations des patrons. Maintenant, il n'y a plus de cotisations à retirer à un SMIC, il n'y en a quasiment plus. Je crois qu'il doit rester accident du travail et maladie professionnelle, mais sinon, on est à zéro. Donc, pour compenser, on fait une prime d'activité. Mais les syndicats ne sont pas contents parce que la prime d'activité, ce n'est pas du salaire qui ouvre des droits sociaux. Bref, par rapport au fait de ne pas donner de coup de pouce, Mathieu Plane.
Là, c'est évident.
Ah, c'est évident. Allez en parler à Danny Long, qui était là hier, qui nous disait que c'était la seule solution.
Dans le sens où, effectivement, avec l'inflation aujourd'hui, d'ailleurs, le SMIC a augmenté de 8% en un an.
En un an, de 8%.
8%, ouais. Ce qui n'est pas le cas des autres salaires. Donc, c'est vrai que c'est normal, moi, quelque part. Ça protège les salariés les plus modestes de perdre du pouvoir d'achat. Moi, je pense que la question essentielle est la diffusion du SMIC sur les salaires au-dessus. C'est-à-dire qu'on l'a dit, celui qui a été embauché ou celle qui a été embauchée à 10 ou 20%, parce qu'elle a un peu d'expérience, parce qu'elle a quelques diplômes, etc., la personne, en tout cas, se retrouve rattrapée par le SMIC. Or, ce n'est pas le contrat initial quand vous êtes embauché. Donc, ça veut dire comment on valorise la qualification. Donc, le risque, c'est effectivement le tassement des salaires, en fait, d'avoir une espèce de trappe à bas salaire qui se constitue. Donc, moi, je pense que la vraie question aujourd'hui, les grands perdants de ce choc inflationniste, en niveau, bien sûr, les gens au SMIC, on ne peut pas dire que leur situation soit enviable. Mais ceux qui perdent relativement en pouvoir d'achat, c'est ceux qui sont juste au-dessus. C'est ceux qui risquent de voir un choc d'inflation important parce qu'ils ont une poids de l'énergie, de l'alimentaire important dans leur panier de consommation. On l'a dit, c'est cette inflation. Mais eux n'ont aucune garantie d'avoir une augmentation de salaire. Et donc, c'est vrai que, vous voyez, quand vous avez une inflation de plus de 10% sur deux ans, un SMIC qui augmente de 8%, il y a des phénomènes de rattrapage. Et donc, ça va être compliqué. Donc, la question qui peut se poser, c'est pour les salaires juste au-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un mécanisme d'indexation partielle, je ne sais pas, réfléchir...
La question a été posée.
La question se
pose aujourd'hui.
Parce qu'on va arriver à un tassement. Et donc on se retrouve dans les pays de l'OCDE parmi ceux qui ont le plus faible écart entre le salaire médian et le salaire minimum. Quoi. Donc le problème, moi je ne crois pas que ce soit le salaire minimum, je pense que c'est l'évolution de carrière. Qu'on commence quand on n'a pas d'expérience, quand on est jeune et qu'on est au SMIC et qu'on n'a pas de diplôme, plus la prime d'activité, vous arrivez à 1500 euros net.
Oui.
Par contre, le salaire médian, y compris prélèvement prestations, vous êtes à 1008, 1009. Ça veut dire que vous avez 50% des gens qui sont entre 1500 net et 1900. Quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que du coup, il faut redonner une dynamique de carrière, un profil de carrière pour des gens qui sont là depuis longtemps dans le travail, qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes. Donc, effectivement, on ne va pas résoudre le problème, je pense, par le coup de pouce au SMIC, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre une forte diffusion sur le reste.
Un élément qui a été mis en lumière par Erwan Tison, c'était lundi, je crois, il disait on a aussi fait le choix, alors on sait bien pourquoi ce choix historiquement a été fait, d'accorder des allègements de cotisations qui s'éteignent en sifflet jusqu'à 1,6 SMIC. Mais est-ce qu'on n'a pas créé une frontière à 1,6 SMIC enferme des gens dans cet espace? Parce qu'il y a plein de patrons qui vont éviter de passer des gens à 1,7 SMIC.
Si vous regardez aujourd'hui les allègements de cotisations, entre les allègements Fillon, le CICE, le pacte de responsabilité, vous êtes à 50 milliards
par
an, à peu près. Avec effectivement une formule dégressive, des allègements de cotisations qui sont maximum au SMIC. Donc vous avez tout pour inciter, en gros, à payer les gens proches du SMIC, parce que vous avez beaucoup d'allègements de cotisations. La prime d'activité, elle est fonction du SMIC aussi. Donc, à la fois du côté du salarié, mais aussi de l'employeur, on voit que c'est un peu la double peine d'augmenter les salaires. Parce que vous recevez moins d'aides, moins de primes, mais en plus, vous payez plus le salaire et vous avez moins d'allègements de
cotisations. Parce qu'on n'est pas devant une erreur structurelle.
La stratégie qui était de dire, en fait, le problème du chômage est au niveau des bas salaires, donc il faut alléger le coût du travail. Si on ne veut pas baisser les salaires, il faut faire des primes, etc. En fait, on arrive un peu à bout de cette logique, qui est le risque, effectivement, de rentrer dans des trappes à bas salaires et le problème de monter en gamme, quoi. C'est-à-dire monter en gamme sur les salaires, sur la qualification, sur notre production. Je dis pas que le problème est simple parce que les agents de cotisation ont permis quand même de créer des emplois au niveau des bas salaires.
Ah oui, et puis si vous les remettez,
vous, vous aurez les effets. Un choc négatif qui est très fort. Donc je veux pas non plus dire c'est facile, c'est évident. Non, mais par contre, on a créé un espèce de dispositif très particulier. Et quand vous regardez dans les pays de l'OCDE, on est le pays où les allègements de cotisation au niveau du bas salaire, du salaire minimum, sont les plus bas aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien.
Oui, oui.
On n'a plus de cotisation quasiment au niveau du salaire minimum. Par contre, si vous prenez deux fois le SMIC, on est les plus hauts de l'OCDE.
Oui.
Donc vous avez un espèce de grand écart énorme, en fait, sur le coût du travail entre deux SMIC et un SMIC.
Il y a toujours eu l'argument de dire bah, « c'est pas la peine de le faire sur les salaires plus élevés parce qu'on n'a pas de chômage chez les cadres ». Ça a été l'argument éternellement opposé. Là-dessus, oui, Christian Saint-Etienne et puis
bah oui, Gaël. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est effectivement l'écartèlement de la chaîne de cotisation sociale avec très peu de cotisations sur les bas salaires et beaucoup de cotisations à 2 SMIC, surtout 3 SMIC et 4 SMIC. Et ce qui pose un problème, là, c'est la deuxième question, c'est qu'on est dans une révolution industrielle qui appelle beaucoup de qualifications, ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation, sur toutes les questions numériques, qui sont payés 3, 4, 5 fois le SMIC et qui, de ce fait, ont des salaires chargés qui sont plus élevés qu'en Allemagne, en Belgique ou ailleurs.
On a déplafonné les cotisations. En France.
Avec une fuite d'emplois à ces niveaux-là. Donc, il y a une réflexion, vous parliez d'erreurs structurelles. Bon, on connaît les bénéfices de cette politique parce que ça a permis de réduire le chômage des gens peu qualifiés. Mais je pense qu'il faut aborder cette question structurelle, peut-être en imaginant de transformer les aides en un montant fixe, de telle sorte que progressivement, il s'érode au cours du temps. C'est-à-dire,
je n'ai pas compris votre idée. Que transformer les aides.
C'est-à-dire qu'au lieu de dire que Mathieu va m'aider, au lieu de dire que quand vous avez un salaire de 1500 euros, les charges sociales à 40%, ça va faire 600 euros.
Et on donne 600 euros.
Et on vous enlève ça. On va dire, on enlève 500 euros jusqu'à 3 SMIC. Et peut-être 400 euros, 300 euros, 200 euros derrière, calculé de telle façon que vous n'avez plus cette barrière.
Ouais, je comprends. Après, il faut continuer à financer le modèle de protection sociale.
Oui, oui, mais...
Continuer à budgétaire constant, j'imagine. Mais l'idée, c'est que ce soit effectivement un forfait fait un pourcentage beaucoup plus élevé sur un bas salaire
que
sur un haut
salaire. Mais j'aime bien Christian Saint-Etienne, il vient toujours avec des idées assez... assez nouvelles et des propositions. Parce que c'est bien toujours de faire de l'indignation.
Le gouvernement m'écoute plus.
Le faire de l'indignation. Non, mais en fait, on est super bon pour s'indigner et puis pour faire des diagnostics. Mais il y a un moment, il faut essayer d'apporter des solutions. Par rapport à cette question du SMIC, Gaël Slimane, bon, je ne sais pas si on a déjà demandé aux gens est-ce qu'il faut monter le SMIC. Je pense que la majorité dit oui, mais.
Oui, on l'a déjà demandé. La majorité dit oui, mais c'est une question qui a des conséquences. Donc, moi, je rebondirais sur ce que disait Mathieu il y a un instant et sur ce que vous avez évoqué les uns et les autres. On parlait de smicardisation des classes moyennes. C'est cette question de classe moyenne. Quand on regarde les seuils statistiques, c'est intéressant parce que finalement, la France des gilets jaunes, la France des gens qui se sentent déclassés, la France de ceux qui, dans nos baromètres, nous disent « bah, je pense, c'est la première fois que ça arrive, hein, je pense que je vis moins bien que mes parents et que mes enfants vivront moins bien que moi ». Ça, c'est une nouveauté, hein, ça fait quelques années que les gens le disent.
Oui. Avant que c'est sur la table, ça.
Ouais,
oui, mais ça là,
c'est aggravé, peut-être.
Non, mais c'est pas ça, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, vous aviez une majorité de Français qui pensaient au moins que leurs enfants vivraient mieux qu'eux et qui avaient le sentiment de vivre quand même mieux que leurs parents. Ça n'est plus le cas. Et ça tient à une catégorie de population qui est celle que vous décrivez, qu'on décrit tous là, qui ne sont pas des catégories populaires ou précaires, encore moins précaires.
Ceux qui ont été décrits par Gabriel Attal le week-end dernier.
Ceux qui sont autour du salaire médian en réalité, donc qui vont se situer sur entre les 20% et les 50%.
Entre 1700 et 2000.
Ouais. Autour des 2000 euros, un peu plus, un peu moins.
Mais celui qui a le sentiment de bosser, de n'avoir jamais droit à rien et de payer pour ceux qui ne bossent pas.
Qui ont parfois fait des études, qui ont parfois des qualifications, enfin qui ont des qualifications, qui ont des diplômes, et puis souvent, parce qu'il faut que la foudre tombe au même endroit, qui du coup sont des gens qui ont déjà été chassés des centres-villes parce qu'ils n'avaient plus les moyens de vivre dans des grandes villes où l'immobilier a flambé, et donc
ils sont pas prioritaires dans les HLM.
Ils sont installés. Ah ben non, ça c'est d'abord. Et puis ils sont installés en zone périurbaine, ils doivent prendre leur voiture pour aller au travail. Donc à chaque fois qu'il y a des conséquences sur les prix de l'énergie ou des mesures politiques écologiques, ils en souffrent. Ce sont ces catégories-là, quand vous regardez les cartes de France sur les zones périurbaines, qui aujourd'hui sont complètement désaffiliées politiquement, s'abstiennent à près de 50% à des élections majeures comme la présidentielle, ou votent pour les partis anti-système, extrême droite, extrême gauche.
Reprenez...
Et ce sont les gens qui sont vraiment en colère.
Vous reprenez les propos de Gabriel Attal, il a fait Parisien et BFM TV le week-end dernier. Il a martelé ce message pendant toutes les émissions ou toutes les interviews. Je veux parler à la France qui bosse et qui a le sentiment qu'elle travaille, mais qu'elle est juste un peu au-dessus des niveaux qui permettent d'accéder aux multiples chèques et subventions. Donc elle ne les touche pas.
Oui, mais
et par contre, elle a le sentiment de bosser pour ceux qui ne bossent pas.
Oui,
mais c'est un peu ça que vous l'écrivez.
C'est le problème, c'est que Nicolas Sarkozy avait inventé il y a une quinzaine d'années un concept qui a marché pendant un moment, qui était l'idée de nommer les problèmes et de s'indigner, faisait, notamment sur la sécurité, que les gens se disaient que même si vous n'aviez pas résolu le problème, quelque part c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit plus. Donc le fait de nommer le problème, et je ne sais pas comment le résoudre, le fait de nommer le problème comme l'a fait avec talent Gabriel Attal, ne suffit pas à convaincre les gens qui le vivent que les choses vont s'améliorer.
Ce qui m'a frappé, c'est quand même que vous prenez le dernier chèque en date, le chèque bois, là, qui j'espère pas en bois, les niveaux de revenus pour y avoir droit, c'est 1,7 SMIC pour une personne seule, c'est beaucoup plus que d'habitude. Mmh. Pareil, le chèque énergie, on a annoncé qu'on élargissait la partie exceptionnelle du chèque.
Mais ils ont pleinement.
Et là, c'est plus 6 millions de foyers bénéficiaires, mais 12 millions.
Vous avez vu que le bouclier tarifaire n'a pas été ciblé. Hein.
Non, parce que
la question serait posée.
Elle s'est posée.
C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs, elle se posera peut-être en 2024. Et c'est où est-ce qu'on met le ciblage? Parce que si on le met bas, en fait, on va exclure une grande partie de la classe moyenne. Si on le met haut, ça coûte très cher, vu qu'il y a quasiment tout le monde. Quoi. Donc la question du ciblage devient très complexe. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ciblées. Qui peut avoir un sens, hein, mais qui exclut de fait une population qui a l'impression effectivement de voir son revenu stagner, voire baisser. Et malgré tout, effectivement, on a tendance un peu maintenant aujourd'hui à opposer les classes sociales entre les classes moyennes et les plus modestes.
C'est un vrai sujet politique. Vous vous souvenez, un matin, j'avais ouvert cette émission, j'avais fait la chronique sur BFM TV sur un chèque, une subvention, quelque chose, fuel, je sais pas, alimentaire. Et là, j'ai le tombereau de tweets qui disaient tous la même chose. Ouais, bah, c'est plus la peine de bosser. Ouais, bah, c'est toujours ceux qui bossent pas qui ont droit à des trucs. Et moi, je bosse, j'ai jamais droit à rien et je paye des impôts. Et j'en avais pas reçu deux, j'en avais reçu 60. Mais j'en avais compilé 4 ou 5 que j'avais lu en intégralité, y compris avec les mots un peu du fond du cœur. C'est impressionnant. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cette histoire.
Oui, mais il y a deux sujets. Il y a le sujet qui oppose les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas ou plus parce qu'ils sont au chômage ou à la retraite, ou étudiants éventuellement. Et puis, il y a un autre sujet qui est celui dont on parlait là, qui est les gens au SMIC, ils travaillent. Donc, qui est entre catégories sociales qui travaillent, dans les deux cas, ceux qui sont sur les plus bas salaires bénéficient légitimement d'aide, mais ceux qui sont un petit peu au-dessus n'en bénéficient pas toujours, et du coup ont ce sentiment de déclassement, en fait. C'est ça ce qui les nourrit.
Et moi, je pense même qu'il Mathieu peut Blan. Y avoir encore un élément supplémentaire qui va s'ajouter avec cet épisode d'inflation. C'est aussi, effectivement, entre les actifs et les retraités. Parce que aujourd'hui, et assez légitimement, les retraites ont été revalorisées pour garantir le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas le cas des salaires. Si on demande aux actifs de travailler plus longtemps, mais que si le salaire augmente moins vite que les prestations de retraite, ça risque d'être compliqué. Donc dans l'épisode actuel, ça ne va pas être facile de faire accepter aux actifs de travailler plus longtemps pour garantir la retraite ou le pouvoir d'achat des retraités si jamais les salaires n'augmentent pas plus. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous avez aussi un choc générationnel qui n'est pas évident à gérer dans cette affaire.
On était partenaire d'une enquête aussi ce matin. On posait la question aux gens, est-ce que les entreprises doivent monter les salaires, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire même si la boîte va super mal. 69% des gens disaient, oui, il faut monter les salaires. Ah non, mais même si l'entreprise n'a pas les moyens, il faut qu'elle les monte. 69% disent ça. Je veux une précision un peu technique. Chaque fois qu'on parle du SMIC, là, c'est pas arrivé là, mais je sais que ça arrive très souvent. On me dit, ah ben vous mentez parce que moi je suis au SMIC, mais j'ai pas 1330. Oui, mais c'est un salaire horaire le SMIC et pas mensuel. On l'exprime toujours mensuel pour lui donner pour l'évaluer, savoir ce que ça.
Ouais, si on est à 20 heures de travail, on n'a pas 1500.
C'est les 1330 euros net. C'est 35 heures temps plein, 35 heures.
Et après, il y a la prime d'activité qui s'ajoute.
Christian Saint-Etienne, le gouvernement, Matignon, Elisabeth Borne envoie au préfet aujourd'hui une sorte de vadémécum, un peu un mode d'emploi d'éco-watt 2022-2023. Il va faire froid, on pense qu'on passe de décembre, en janvier on ne sait pas trop. Éco-watt, 5 niveaux d'étape jusqu'à d'éventuelles grosses coupures d'électricité. Voilà, on est en train de préparer le terrain pour savoir où est-ce qu'on va délester, où est-ce qu'on va baisser la tension, où est-ce qu'on va imposer des coupures temporaires jusqu'à des risques plus importants. Ça sent un peu l'inquiétude au plus haut niveau de l'État quand même. Et donc là, ben, le gouvernement maintenant fait son mode d'emploi de comment on passe l'hiver et comment on évite les ruptures d'approvisionnement. Quoi.
Oui, mais le problème, c'est pas seulement cet hiver. C'est que le gouvernement ne planifie aucune progression de la production d'électricité sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire que si c'est le premier hiver de 20 hivers où on skye, c'est pas la même chose que si c'est un hiver et puis qu'on trouve des solutions après. Or, ce qui est assez spectaculaire, c'est que depuis la fin août, la première ministre ne manie que les annonces de coupe ou les annonces de punition pour les entreprises, et à aucun moment elle n'annonce de programme de hausse de la production.
Ils n'ont rien sous le coude.
Mais ils n'ont rien sous le coude parce qu'il n'y a pas de planification. Alors, de ce point de vue, d'ailleurs, moi j'appelle à une enquête parlementaire sur les politiques de production d'énergie depuis 15 ans, parce qu'il y a eu une déficience au niveau de l'État qui est absolument monstrueuse.
Pour réussir à choper quelques têtes écologistes, on a décidé de prendre des décisions structurelles complètement débiles. Donc, à un moment, ça se paye.
Oui, mais à un moment donné, il faut quand même...
Je ne suis pas sûr que Nicolas Hulot ait changé la vie de la France en restant un petit peu au ministère.
Oui, mais il y a un moment donné, il faut prendre en compte tous ces éléments. En plus, vous venez de dire la raison qui était de faire plaisir à des partis qui permettaient d'avoir la majorité. Ce n'est pas le point central. C'est qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez exercer une responsabilité sur le long terme. Maintenant, on est au milieu d'une crise. La première ministre est polytechnicienne. Sinon, ça ne sert à rien. On prend quelqu'un qui a bac moins 10. Elle gouverne exactement comme quelqu'un qui a bac moins 10, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de se projeter sur le long terme. On aimerait bien avoir, de la part d'une polytechnicienne, un projet de développement de la production d'électricité. On sait, alors on nous annonce des EPR, mais on sait que même si on lance immédiatement la construction d'EPR, le premier, c'est dans 15 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant 15 ans? Donc, il faut pousser massivement la production d'énergie renouvelable, mais en attendant, il faut mettre en œuvre une vingtaine de centrales au gaz qui permettent de faire face au pic. Donc c'est un point clé et il faut également travailler sur les éléments de stockage d'électricité. On sait que c'est le point faible pour l'électricité, mais il y a au niveau mondial une progression des capacités de stockage qui est considérable. Là aussi, donc, que ce soit sur la production, que ce soit sur l'écrêtement des pics et sur les capacités de stockage, on n'a rien. Deuxième élément où on n'a rien, c'est quand même un problème structurel depuis une dizaine d'années, c'est qu'EDF n'investit plus sur les barrages hydroélectriques et on sait qu'on pourrait augmenter la production dans ce domaine d'au moins 15% parce que on a un problème de propriété des barrages. Puisque la France a très très mal négocié depuis une quinzaine d'années un certain nombre de directives au niveau européen. C'est une conjonction de directives sur l'eau et d'autres directives qui font que nous deux, alors que les Allemands ont négocié une clause d'exclusion les concernant, nous sommes obligés de remettre en jeu la propriété des barrages. Donc EDF attend une décision, ça fait au moins 15 ans qu'elle attend une décision sur ce sujet, et elle n'investit plus sur les systèmes de production, les turbines, ainsi de suite. Donc là aussi, il faut profiter de la crise pour résoudre ce problème avec Bruxelles, obtenir une décision. S'il faut mettre en jeu la propriété des barrages, on le fait en urgence. Mais enfin, EDF sait gérer les barrages et on demande à EDF un programme d'urgence pour relancer. Et ça peut se faire en 18 mois, l'augmentation. Et d'autant plus que EDF vient de racheter le producteur de turbines. Donc on sait... Moi, j'attends un état stratège qui mette sur la table une vision de la production d'électricité. Et on n'a rien. C'est le vide absolu et c'est insupportable.
En face, vous avez un chèque bois qui vient d'être annoncé, un chèque fuel qui vient d'être annoncé aussi, une ristourne carburant.
On sait que la révolution industrielle dans laquelle nous sommes, c'est la révolution de l'informatique. L'informatique, ça travaille avec l'électricité. On sait que de la planification de toutes les prochaines guerres commence par la destruction des centrales électriques pour mettre les pays à genoux. Donc, vous avez RTE qui ne fait pas son boulot aussi. On avait une capacité de production historiquement 10% supérieure à la consommation. On a éradiqué ce surplus. Voilà, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre ni le président ni le premier ministre ne semblent s'intéresser au sujet qui est pourtant clé pour l'avenir.
Le dernier qui a vu un peu de clairvoyance sur la place que devait occuper le nucléaire, c'était Nicolas Sarkozy.
Mais moi, je vais au-delà du nucléaire, je parle de l'électricité.
Je vous rappelle qu'on a 20 réacteurs à l'arrêt, c'est beaucoup trop. On en avait 24 il y a une semaine, 26 il y a 15 jours. Vous voulez dire un mot là-dessus, on a 3 minutes sur Gaël.
Un mot sur le nucléaire, parce que même si on parle...
Ça a changé l'opinion sur le nucléaire,
L'opinion s'est complètement retournée, parce que pendant les années de la présidence Hollande, où il était question de réduire la part du nucléaire et d'aller vers du, à terme...
Faire des 14 centrales.
Exactement. L'opinion avait accompagné, parce que les Français sont très attentifs à l'environnement, mais aujourd'hui, le sentiment général, c'est que finalement, le nucléaire n'est pas forcément l'ennemi de l'environnement et que, en tout cas, outre les énergies renouvelables, c'est une énergie qui est finalement beaucoup plus propre que ne l'est le charbon, par exemple. Je pense que, si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien vu qu'on allait avoir des pénalités de Bruxelles, autour de 200 millions sur notre manque de lié à ce que, à notre consommation d'énergie nucléaire, alors que l'Allemagne, elle, n'aura pas ses pénalités et qui est au charbon.
J'ai zappé.
Il m'a semblé voir ça. Si jamais c'est
selon
vrai.
Selon des directives que la France a votées.
Selon des directives que la France a votées, mais contre lesquelles, je crois, Bruno Le Maire s'était insurgé. Mais si c'est vrai, ça promet aussi un sacré scandale. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui pollue à tour de bras avec du charbon.
Plusieurs centaines de millions de tonnes.
Voilà, et qui ne sera pas pénalisée, au contraire. Et la France qui est sur du nucléaire, qui le serait, ça peut choquer pas mal l'opinion.
De toute façon, le marché unique de l'énergie avec la tarification coût marginal, c'est très bien dans un monde de bisounours qui tourne parfaitement. Quand il y a un gros grain de sable, objectivement, ça ne fonctionne plus. Une minute trente, oui, Mathieu.
Les choix stratégiques sur l'énergie, effectivement, l'Allemagne est un bon exemple des mauvais choix aussi. Nord Stream 2, la fermeture. Voilà, la vision du monde telle que l'avait l'Allemagne et en partie l'Europe, c'est quand même assez, c'est écroulé rapidement avec la guerre. Et donc avec les enjeux stratégiques autour de l'énergie, on voit que c'est vital.
Oui, mais l'énergie, c'était un des seuls avantages comparatifs qu'on avait.
D'ailleurs, il faut se rappeler que, effectivement, on a construit quand même beaucoup de centrales suite au premier choc pétrolier. Justement pour être moins dépendant des hydrocarbures. Aujourd'hui, on est face à un double problème, c'est effectivement géostratégique, c'est comment on se fournit en énergie, et un problème écologique, comment on décarbonne notre production. Et donc la solution, c'est effectivement de produire plus d'électricité, plus la stocker, etc. Mais on voit que ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est compliqué.
Non, il faut commencer.
Il faut commencer aujourd'hui, on peut pas, il y a effectivement le nucléaire et les énergies renouvelables, ça va prendre du temps. Effectivement, il va y avoir une demande électrique énorme, on le voit notamment sur la question industrielle. Si on veut décarboner notre production industrielle, il va falloir fournir
tous rouler sans
l'électrique.
Les capacités de production doivent être augmentées.
Il faut doubler la production électrique en moins de 25 ans. Sait le faire. On a su construire des centrales il y a 40 ans.
Et donc c'est le sujet numéro un. C'est le sujet. Il faut, pour des raisons stratégiques et pour des raisons écologiques.
C'était mardi. J'ai rencontré une entreprise française qui est le fruit du mariage de Green Yellow, qui est un opérateur solaire, et de Engie. Fascinant. Il s'appelle Reservoir Sun. Ils investissent en couvrant les parkings et les toitures. Le potentiel d'électricité que l'on peut générer en couvrant tous les parkings et toutes les toitures industrielles de France, l'ADEME a fait des calculs, on est sur une très très grosse... C'est plus que le parc.
Donc il y a des choses à faire. Juste, je voulais rappeler que la facture énergétique cette année risque d'être d'autour de 100 milliards d'euros, ce qui est pas rien quand même, ce qu'on paye à l'étranger.
Il y a juste un détail, mais dans la circulaire de Matignon envoyée au préfet, on apprend, vous pouvez le supposer, mais s'il y a des coupures, il n'y a plus de téléphone. Voilà. Même si votre téléphone a de la batterie, c'est fini. Oui. Voilà. Il semblerait qu'on puisse uniquement, éventuellement, avec le 112 qui ratisse très large, peut-être pouvoir appeler des secours en cas de nécessité. Merci à vous, Mathieu Plane, aujourd'hui, Christian Saint-Etienne, Gaël Slimane, à l'occasion du baromètre Odoxa avec Abeille Assurance.